Alors, le sujet que nous allons aborder à présent, c'est la foi comme écoute et vision. La foi chrétienne n'est pas uniquement une connaissance intellectuelle des préceptes et des commandements que Dieu aurait donnés pour que l'homme découvre quelle est la voie du salut. Non, notre Dieu n'est pas coupé de ses créatures. Il cherche à être autant que possible en relation et en relation vivante avec nous, ce qui suppose une forme de communication. Et Dieu n'est pas dans le virtuel. Il est dans le concret, dans la relation intime avec chacun de nous en particulier. Comment cela ? Il va se servir pour cela essentiellement de nos sens. Il s'adresse à nous par la parole, par sa parole faite chair, ou alors il se manifeste à nos yeux dans sa gloire, ou alors pas forcément dans sa gloire, mais de manière plus humble. Il nous demande donc d'être à l'écoute et d'ouvrir grand nos yeux pour voir les merveilles qu'il accomplit chaque jour dans nos vies, dans ma vie. Nous allons d'abord essayer de préciser ce que peut vouloir dire la foi comme écoute et vision. Puis nous demanderons comment cela se concrétise à l'aide de 3 petits témoignages. Et enfin, nous donnerons quelques pistes pour nous laisser interpeller nous-mêmes. Si nous ouvrons la Bible, nous nous apercevons bien vite que c'est Dieu en personne qui fait les premiers pas en direction de l'homme. C'est lui qui se manifeste, c'est lui qui appelle. Ce matin, Sœur Théodora nous a parlé de l'appel à Abraham, donc je ne le reprends pas. On peut penser à Moïse aussi. On le retrouve dans le livre de l'Exode, où Dieu appelle Moïse, qui n'avait pas du tout prévu une rencontre avec Dieu. C'est l'épisode du buisson ardent. Et c'est un épisode très important, puisque c'est là où Dieu révèle son nom à Moïse. Nous pouvons penser aussi aux prophètes. Et là, par exemple, l'appel du prophète Samuel. Donc, c'est le fils d'Anne qui est venu demander un enfant au Seigneur. Le Seigneur l'a écouté, elle a enfanté le petit Samuel, et tout de suite, elle vient l'offrir à Dieu. Elle veut le donner à Dieu. Donc, elle le met au service du prophète Élie. Et une nuit, eh bien, Dieu appelle Samuel. 3 fois. Samuel ne sait pas que c'est Dieu qui l'appelle, mais il est attentif, vigilant. Il répond à cet appel. La 3e fois, il aura compris que c'est Dieu lui-même qui appelle. Les apôtres sont appelés ensuite dans le Nouveau Testament. Jésus appelle chacun en particulier. On le retrouve dans les débuts des évangiles, des 4 évangiles. Nous pouvons voir l'appel de Jésus, comment il choisit ses disciples. Dans une de ses catéchèses du mercredi, en décembre 2008, le pape Benoît XVI disait « La foi n'est pas le produit de notre pensée, de notre réflexion. C'est quelque chose de nouveau que nous ne pouvons inventer, mais uniquement recevoir comme un don, comme une nouveauté produite par Dieu. La foi ne vient pas de la lecture, mais de l'écoute. Il ne s'agit pas uniquement de quelque chose d'intérieur, mais d'une relation avec quelqu'un. Elle suppose une rencontre avec annonce, elle suppose l'existence de l'autre qui annonce et crée la communion. » Dans l'encyclique au numéro 29, nous retrouvons une formulation similaire. La connaissance de la foi est liée à l'alliance d'un Dieu fidèle qui noue une relation d'amour avec l'homme et lui adresse la parole. Elle est présentée dans la Bible comme une écoute. Comment est née et a grandi notre foi personnelle en Jésus-Christ ? dans la très grande majorité des cas, grâce au témoignage de quelqu'un, nos parents, nos amis, des inconnus, des prêtres, qui nous ont parlé de Jésus, de ceux qu'ils connaissaient de lui, de ceux qui maintenant les faisaient vivre. Pour certains d'entre nous, la foi nous a été transmise par nos parents dès le berceau. Mais combien d'autres n'ont jamais entendu parler de Jésus et sont interpellés dans leur vie quand ils font sa connaissance? On ne peut que difficilement rester indifférent lorsque quelqu'un veut entrer en contact avec nous. Nous sommes ainsi appelés à nous confronter avec cette nouveauté de Dieu et de prendre position une fois que notre relation a grandi. Lorsque la rencontre avec Dieu a eu lieu et que la connaissance mutuelle a grandi, notre écoute devient plus attentive et capable de reconnaître la voix qui nous parle. On peut penser dans l'Évangile à la parabole du bon pasteur. L'Évangile selon saint Jean au chapitre 10, où Jésus dit très clairement « Mes brebis reconnaissent ma voix et elles ne suivent pas le mercenaire. » Une fois que nous sommes entrés dans l'intimité de Jésus, nous sommes capables de reconnaître sa voix et de nous rendre compte que d'autres voix ne sont pas celles de Jésus et qu'elles ne sont pas à suivre. Mais l'homme a aussi besoin de voir. Là encore, dès l'Ancien Testament, nous pouvons constater combien Dieu aime les hommes et s'est manifesté lui-même. On nous parle de la nuée, de la lumière. Moïse est vraiment le modèle de celui qui voit. Il voit Dieu face à face, Moïse. Ou alors, dans l'Ancien Testament, nous pouvons reconnaître Dieu par ses œuvres, tous les miracles qu'il fait. Nous pouvons penser aux plaies d'Égypte, à la traversée de la mer Rouge, par exemple. Le sommet, pourtant, est atteint avec l'avènement de Jésus-Christ. Dieu prend chair humaine. Tous les hommes de son temps ont pu le voir et l'entendre, et assister aux grands miracles qu'il a accomplis. Là, nous pouvons penser, par exemple, à la multiplication des pains. Tout en pensant que les personnes qui ont assisté à la multiplication des pains, le plus grand nombre d'entre elles, voyaient en Jésus un chef qui pouvait suivre. C'est super, il nous fournit le pain, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Eh bien non, Jésus, il demande que nous aillions plus profond, que nous ne nous contentions pas de la superficie. Il nous demande plus. La pêche miraculeuse aussi, ou alors... Et là, c'est un exemple très beau de foi, justement vécue, alors qu'elle ne vient pas de la foi d'Israël. Cette femme syrophénicienne qui entend parler de Jésus et qui vient l'embêter, je dirais. Parce que normalement, elle n'avait pas à venir voir Jésus. Elle vient quand même et elle lui demande de guérir sa fille. Et Jésus a des paroles qui peuvent paraître dures pour elle. Il lui dit « Mais... on ne donne pas le pain des petits-enfants aux chiens. » Et elle dit, « Ben si, si, moi je le prends. » Parce que les chiens ramassent les miettes qui tombent au sol. Et Jésus dit, « Ben oui, ta foi est grande. » Elle a entendu parler de Jésus et elle a cru. Elle vient le voir et elle croit fermement que Jésus peut faire quelque chose pour elle. Dans sa première lettre, saint Jean le dit lui aussi. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Cette phrase est pour nous une base solide pour notre propre foi qui nous aide à connaître l'amour de Jésus. Au numéro 31, nous lisons « La lumière de l'amour naît quand nous sommes touchés dans notre cœur ». Nous recevons ainsi en nous la présence intérieure du bien-aimé qui nous permet de reconnaître son mystère et par là de découvrir la vérité qui est centrée sur cette rencontre avec le Christ, sur la contemplation de sa vie, sur la perception de sa présence. Ensuite, nous pourrons voir plus loin Pénétrez davantage encore, comme Jésus le dit lui-même à Marthe, au moment de la résurrection de son frère Lazare, avant d'accomplir ce grand miracle. Il lui dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Les sacrements jouent aussi un grand rôle dans cette rencontre personnelle avec Jésus qui agit et se manifeste dans nos vies. Mais là non plus, je ne vais pas le développer parce que quelqu'un d'autre le fera plus tard. Toutefois, écouter et voir n'est pas suffisant pour nous laisser transformer. Dieu a besoin de l'assentiment de notre liberté pour pouvoir vraiment agir en nous. Oui, même devant le miracle le plus retentissant, notre cœur peut rester sourd et aveugle, il peut se fermer. Mais quelle tristesse alors ! Pensons plutôt à cet encouragement que nous pouvons lire dès l'introduction de l'encyclique « Qui croit, voit ». Chaque chrétien, chacun, chacune de nous peut et même doit aspirer à ce moment de notre vie où nous n'aurons plus besoin de croire pour voir, mais où nous aurons la pleine vision de Dieu, où nous pourrons le voir face à face et où nous comprendrons mieux le mystère de Dieu. À présent, quelques petits exemples concrets de personnes qui se sont laissées toucher par un regard ou par une parole. Très récemment, donc le 13 octobre, le pape François consacrait le monde au cœur immaculé de Marie. La veille au soir, il y avait une veillée à Rome et il y a eu plusieurs témoignages, notamment, peut-être que certains d'entre vous l'auront vu, le témoignage d'un des acteurs du film de La Passion, de Mel Gibson, l'acteur qui jouait Barabbas. Et il donnait son témoignage, lui, en tant qu'acteur, prenait ce rôle parce que, ben voilà, on lui avait proposé ce rôle. Et voilà qu'il a une scène à jouer. Pilate est présent, Jésus est là, Barabbas. C'est le moment où Barabbas est libéré. Le peuple choisit de libérer Barabbas et de tuer Jésus. Et nous voyons cette scène où Barabbas se tourne vers Jésus avec un regard vraiment méprisant. Et on voit le regard de Jésus. Eh bien, cet acteur, qui s'appelle Pierre, dit qu'à ce moment-là, il a vraiment ressenti comme le regard de Jésus qui le regardait à ce moment-là. Un regard qui l'a bouleversé. Pourtant, c'était un autre acteur, c'était pas Jésus qui était là. Mais il jouait le rôle de Jésus et ça l'a bouleversé. Il en a reparlé pendant longtemps, il a réfléchi, un prêtre a fini par le contacter. Et comme ça, il a grandi et il fait son cheminement dans la foi maintenant. Au début du XXe siècle, en 1903, un autre jeune homme d'une trentaine d'années est médecin. Il s'appelle Alexis Carrel. Il a reçu dans sa jeunesse une formation religieuse solide. Mais bon, il a fait des études scientifiques qui l'ont détourné de sa foi. Il en est même venu jusqu'à une indifférence religieuse. Quand il arrive vers ses 30 ans, on lui propose d'accompagner un voyage, un pèlerinage de malades à Lourdes. Il accepte tout de suite. On pourrait se dire, ben, pourquoi il accepte ? En fait, c'est qu'il aimerait bien expliquer scientifiquement les miracles qui se déroulent à Lourdes. Donc il arrive avec un regard légèrement critique quand même. Et donc, il accompagne les malades dans le train. Déjà à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, le voyage est long et pénible, à tel point que des personnes meurent dans le train avant d'arriver à Lourdes. Donc lui, il suit les malades et il prend toutes les référents, enfin, tous les diagnostics qu'il faut. Il se trouve qu'il a à s'occuper d'une jeune femme qui s'appelle Marie Fernand. Son diagnostic est vraiment sans appel. Elle est condamnée parce qu'elle a une péritonite tuberculeuse. Même à l'hôpital, on n'a pas voulu l'opérer. Vraiment, on pense qu'elle est inguérissable. Et puis, quand il arrive à Lourdes, eh bien, il discute beaucoup avec un de ses amis médecins qui lui croit qu'à Lourdes, il se passe des miracles. Pour Alexis Carrel, ce qui se passe, c'est que, bon, ben, ils repartent, ils ont le baume au cœur. C'est un peu ça. Le moral va mieux, mais le corps ne guérit pas là-bas. Et il dit à son ami, ben, si jamais je vois un miracle, alors là, je croirai. Eh bien, le lendemain, Marie-Fernand va aux piscines et elle ressort, elle est guérie, complètement guérie. Et il l'ausculte comme il peut parce qu'il dit, c'est pas possible. Et finalement, il est obligé de reconnaître, elle n'a plus aucun symptôme, elle est guérie. Ça le bouleverse au plus profond de son âme et il dit, il n'y a pas d'erreur de diagnostic. L'eau de Lourdes n'a pas de propriété minérale particulière. C'est bien une forme surnaturelle, une force, pardon, surnaturelle qui a réalisé ce miracle. J'avais encore un troisième témoignage à vous raconter, mais ce sera pour une autre fois. Alors, c'est un témoignage plus récent. Pendant l'été, j'ai assisté à une session de jeunes en Allemagne. Donc, c'est un Allemand d'une quarantaine d'années qui donnait son propre témoignage, qui a touché à beaucoup de choses dans sa vie, qui est tombé très, très bas. Il a même commis un meurtre. Et le Seigneur est venu le chercher dans sa prison. La providence a agi pour lui. Plusieurs fois, sans qu'il ait la foi, parce qu'il venait d'Allemagne de l'Est, il n'avait rien reçu du tout au niveau de la foi, il ne connaissait pas. Dieu est venu le chercher là où lui était. Ça a commencé par un lieu de pèlerinage où il est passé tout à fait par hasard, et où il a laissé un petit billet parce qu'il était tellement mal et il s'en rendait compte, et qu'il voyait que d'autres avaient laissé des intentions de prière. Lui, il ne savait pas trop ce que c'était, mais il s'est dit, je vais écrire sur un petit billet, moi je voudrais avoir le bonheur. Et Dieu l'a écouté. Et il l'a aidé. Bon, après quand même, il a été emprisonné parce qu'on a réussi à l'attraper. Donc pour meurtre, il a fait de la prison. Et alors qu'il commençait à se poser énormément de questions, qu'il avait tagué tout son mur avec des questions, il réfléchissait, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est possible? Et il était torturé par la question, mais est-ce que si Dieu existe, il peut me pardonner? J'ai fait beaucoup de choses qui sont mauvaises. J'ai tué. Est-ce que Dieu peut pardonner? Et puis un jour, il dit, j'étais couché sur mon lit. Il avait un drap, parce que la cellule était du côté sud, le soleil donnait très fort. Donc ils avaient mis un drap. Et il dit, tout à coup, une petite brise légère. Il avait reçu une Bible avant. Et puis, il entend très nettement une voix qui lui dit, « Ouvre et lis. » Son regard tombe sur la Bible. Il prend la Bible, il ouvre. Le premier passage sur lequel il tombe, c'est la première lettre de Saint Jean, premier chapitre, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. » La réponse à ce qu'il demandait. Incroyable. Il dit, « Mais je ne connaissais pas, alors j'avais tellement peur, j'ai pris la Bible, j'ai jeté à l'autre bout de la cellule. » Et puis, il continue quand même à réfléchir à ça, parce qu'il dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, quelques temps après, le même phénomène reprend. Une voix prend Élie. Et il tombe sur le passage de la lettre de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5. « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés. Là, il a été complètement retourné. Il a fait vraiment une démarche de baptême. Il a été baptisé, il est sorti de prison. Il a pu trouver une épouse. En très court, hein. Mais c'est beau de voir et combien il était reconnaissant à Dieu d'être intervenu dans sa vie. Bon, alors c'est sûr que nous, on n'a pas forcément, je pense que dans la salle, il n'y en a pas beaucoup qui ont déjà entendu la voix de Dieu, qui leur dit, prends et lis, ou des choses comme ça. Mais en même temps, c'est vrai que ça peut être très beau et très intéressant de voir un petit peu dans notre vie de chaque jour, comment est-ce que Dieu, il essaie de me parler. Alors là, j'en suis à ma troisième petite partie, mais comment est-ce que moi, je peux me laisser interpeller par les petits faits quotidiens de ma vie? Alors, c'est quelques pistes, hein. Vous en faites ce que vous pouvez ou ce que vous voulez. Mais C'est vrai que on peut être à l'affût de ce que Dieu peut vouloir me dire ou me donner à voir. Alors par exemple, ne suis-je pas habituée à certaines lectures à la messe, que je n'y fais même plus attention, alors que c'est la parole de Dieu et que chaque jour, eh bien, même si c'est 56 fois dans l'année que j'entends la même lecture, eh bien, 56 fois, je peux avoir un petit passage rien que pour moi, qui va faire tilt dans ma vie à moi. Ai-je le désir de rencontrer personnellement Jésus ? Est-ce que j'essaie de profiter d'un moment où il y a peut-être une adoration du Saint-Sacrement qui est proposée ? Est-ce que je suis attentive aux paroles que peuvent me dire un prêtre ou un ami, un collègue ? C'est vrai que parfois, Dieu il peut passer par d'autres pour nous parler. Est-ce que je reconnais Jésus dans les pauvres, dans les malades ou dans les personnes de mon entourage ? Ne suis-je pas blasée par un environnement urbain qui me fait oublier la beauté de la création ? Dieu s'adapte à chacun de nous et nous donne ce dont nous avons besoin, pas forcément ce dont nous avons envie. Pour nous aider à grandir dans notre foi, sachons être à l'écoute de cette petite voix en nous qui nous indique le chemin à emprunter et nous vaincre lorsque nous reconnaissons que là est le vrai bien. Laissons Dieu choisir s'il veut se manifester à nous de manière plus éclatante ou peut-être plus discrète. Notre foi nous dit que Jésus est là. Et cela doit nous suffire. Saint Paul écrit aux Philippiens, « Le Seigneur est proche. » Il me semble que nous avons un petit peu mieux compris que, oui, Dieu est proche de chacun de nous. Dans toute notre vie, Dieu est proche. Prions-le afin que nous puissions toujours être touchés au plus profond de notre être par sa proximité. Afin que naisse la joie de la foi, cette joie qui naît lorsque Jésus est réellement proche.